Chers amis, nous allons lire successivement deux textes dans le cadre de notre série d'études. Le premier dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Nombre chapitre 14. Nous laisserons le texte de Nombre 11, qui traite aussi de notre sujet. Vous pourrez l'étudier à titre personnel. Dans Nombre 11, 26 à 30, figure encore un texte en rapport avec les relations entre Josué et Moïse, son aîné. Texte très intéressant sur les relations et le service dans l'Église. Mais nous laisserons ce texte et nous allons au chapitre 14 pour lire à partir du verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. » Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente du rendez-vous devant tous les enfants d'Israël. Et nous allons dans le début du livre de Josué, au chapitre 1er, pour en lire l'introduction, les 9 premiers versets. Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi seulement, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons donc, entre mercredi soir et hier soir, considéré 4 textes. Les 4 textes essentiels, d'ailleurs, les 4 premiers textes, mettant en étroite relation l'aîné, Moïse, l'octogénaire, et son cadet et son successeur comme chef des pionniers dans la conquête d'Israël, Josué, qui était à la moitié de son âge. Et nous les avons vus dans leur relation, nous avons vu jusqu'ici tout ce que Josué a pu apprendre au contact de son aîné. Et nous en avons tiré toutes sortes de considérations pratiques concernant nos vies personnelles, nos vies conjugales, familiales et notre témoignage au sein de nos églises locales. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous laissons le 5e texte, non pas qu'il ne soit pas important, mais nous sommes limités dans le temps et il est bien ainsi, nous ne sommes jamais au bout de notre étude des Écritures, tout est symbole. Mais nous voulons considérer à la fois le 6e grand texte, mettant ces deux hommes en relation, nous l'avons lu dans Nombre 14, et puis ce texte qui est à la fois notre conclusion et en même temps une introduction à ce beau livre de Josué, où nous retrouvons Josué seul, en tout cas celui dont il était le serviteur. Cela nous est répété, ça a été très fortement souligné. Il nous est dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, pour à nouveau appuyer sur cette importance dans la vie de disciple de Christ, notre autorité dans notre témoignage et dans notre service est liée d'abord à l'apprentissage de l'obéissance. Ceux qui ne se soumettent pas ne peuvent pas devenir des conducteurs. C'était là un des aspects de notre thème. Nous avons dans le livre du Deutéronome 2 textes qui sont très beaux, très suggestifs concernant la terre d'Israël. J'aimerais que nous les lisions, ils sont courts mais bienfaisants. Deutéronome chapitre 8 versets 7 à 9 nous dit ceci, chapitre 8 versets 7 à 9. C'est un passage que Josué a entendu, qui a dû le réjouir, le bouleverser dans son cœur. Chapitre 8, versets 7 à 9, « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. » Et un peu plus loin, donc au chapitre 11, dans les versets 9 à 12, chapitre 11, versets 9 à 12, il est question de la promesse de l'Éternel. L'Éternel a juré à vos pères de leur donner ce pays. Il l'a fait à eux et à leur postérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Mettons-nous à la place de Josué. Est-ce que nous réalisons que Josué a dû attendre 40 ans l'accomplissement de la promesse? Par solidarité en quelque sorte avec le peuple d'Israël, Et avec cette génération des aînés qui sont tous morts à cause de leur incrédulité dans le désert. Est-ce que vous réalisez cela? Combien ça devait être difficile pour Josué qui vivait dans la foi de devoir en quelque sorte roger son frein, comme on dit, et se dire non, à cause de l'incrédulité de mes aînés, je dois maintenant tourner en rond dans le désert des dizaines d'années durant. Alors vous imaginez combien son cœur battait fort lorsque, sur le point d'entrer dans cette terre tant attendue, espérée depuis des siècles, depuis Genèse 12, il entendait ces magnifiques descriptions, lui qui avait vécu dans le désert. Je ne sais pas si vous avez goûté au désert, j'ai goûté à plusieurs reprises au désert dans plusieurs pays du monde, et la verdure après le désert. La couleur est particulièrement verte après le désert. Quel bienfait, l'eau. L'eau devient quelque chose de tellement précieux. Nous sommes simplement en train d'apprendre que l'eau est précieuse dans notre beau pays de France. Le pays où coule le lait et le miel. Il y a dans l'Ancien Testament, essentiellement dans le Pentateuque, dans ses 5 premiers livres de la Bible, la Torah, comme disent les Hébreux, il y a quelques 20 mentions d'Israël comme étant le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu a pris soin d'affirmer, tenez-vous bien, quelques 114 fois, je les ai comptées, entre Genèse 12 et Josué, chapitre 1er, Dieu a affirmé quelques 114 fois, de manière très précise, que cette terre, il allait la donner à Israël. Qu'elle était un don de Dieu. Quand aujourd'hui, même en dehors, hélas, d'une juste relation avec l'Éternel, certains juifs disent qu'ils sont en Israël dans leur terre, se basant en cela sur l'ancienne alliance, ils s'appuient au moins sur ces 114 affirmations claires, sans aucune ambiguïté. J'ai juré de donner cette terre à Israël. D'ailleurs, je viens d'utiliser une totalité d'expression, j'ai juré, Dieu a juré. Ceci nous est dit dans le texte au verset 6. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Eh bien, simplement cette petite expression, cette petite locution figure quelque 36 fois entre Genèse 12 et Josué chapitre 1er. 36 fois l'Éternel dit « J'ai juré, je me suis engagé par un serment ». Vous vous rendez compte? La raison pour laquelle nous, sur la terre, quand nous ne sommes pas en Christ, nous jurons, c'est parce que nous sommes des menteurs. Dieu ne ment pas. Et pourtant il jure. C'est-à-dire qu'il engage sa propre personne, sa propre nature, sa propre essence, sa justice parfaite. Vous vous rendez compte vis-à-vis des êtres humains que nous sommes? Que Dieu fasse une telle démarche, lui jure. Et simplement dans le livre du Deutéronome, cette expression « Dieu a juré » figure quelque 23 fois. Alors que ce peuple était là, aux frontières du pays promis, 23 fois en tout cas, Dieu leur a dit solennellement qu'il avait juré, déjà à leur père et à eux-mêmes, de leur donner cette terre. Dieu s'est engagé solennellement. Le peuple est à la porte du pays promis, à Sittim, un terme qui signifie acacia, c'était une terre fertile donc en acacia, dans la plaine de Moab, en Jordanie actuelle, à quelques kilomètres du Jourdain, juste au nord-est de la mer Morte. Et Dieu donne un ordre clair. Maintenant, lève-toi pour entrer dans le pays que je donne. Comment comprendre ceci à la lumière de la Nouvelle Alliance? Eh bien, la vie chrétienne, le salut, c'est le pays que Dieu nous donne. Dieu lui aussi a juré, et j'ose le dire, il l'a juré sur la tête de son Fils, de nous donner le pays où coule le lait et le miel. Une terre promise qui s'appelle le salut, avec un grand S. Dieu s'est engagé parce qu'il a fait des promesses déjà dans l'ancienne alliance et parce que cela remonte à l'éternité. Il s'est engagé à nous faire un cadeau extraordinaire, le salut. Un don merveilleux de Dieu. Un cadeau totalement immérité. Continuellement, dans le Pentateuque, il est question de ce territoire comme d'un don merveilleux de Dieu. Nous l'avons dit hier soir, le salut est pour ceux qui s'en emparent. Le salut est pour ceux qui s'en emparent. Maintenant, lève-toi pour entrer dans le pays que je donne. Lève-toi. Il y a un pas à faire. Il y a un pas à faire. Et nous le dirons tout à l'heure dans notre conclusion. Il faut prendre possession. Prendre possession ou déposséder figure 52 fois dans le Deutéronome. Dieu nous donne, il fait cadeau, il l'a juré, il s'est engagé, il l'a fait sur la tête de son Fils Jésus-Christ, en donnant son Fils Jésus-Christ. Mais nous devons nous emparer. Il n'y a pas de passivité possible. Nous devons déposséder. Et la nouvelle naissance, c'est ce premier pas qui consiste à déposséder la puissance d'un ténèbre, des ténèbres du territoire de notre vie. Nous sommes arrachés à la puissance des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais c'est un premier pas. Et il faut le dire, l'avez-vous fait, ce premier pas? Est-ce que tout le monde ici s'est engagé dans ce premier pas? Déposséder, prendre possession. La régénération, c'est une entrée en possession. Mais quand on entre en possession, on ne fait que le premier pas. Et le problème, c'est que trop de disciples de Christ s'arrêtent au tout premier pas. Ils négligent d'aller plus loin, de s'enfoncer dans ce nouveau territoire qui s'appelle le salut. Il se cantonne dans une certaine médiocrité. Là où Dieu veut, chez nous, nous l'avons dit, c'était le thème des deux premiers soirs, un esprit de conquête. Les bases fondamentales d'une vie chrétienne conquérante. Un esprit de conquête. C'est pourquoi cette conclusion est tellement importante, tout simplement parce qu'il y a des obstacles. Et ce qui nous arrête dans notre conquête après avoir fait le premier pas, ce sont les obstacles. Et ce texte nous parle, en tout cas, au moins de 4 obstacles qui ralentissent, qui freinent notre esprit de conquête, qui l'éteignent parfois. Et qui font que nous nous contentons d'un christianisme même évangélique qui peut être, hélas, celui du dimanche matin. Parce qu'ici comme ailleurs, en Alsace comme ailleurs, essentiellement dans nos pays d'Europe, pas outre-mer dans bien des pays, mais dans nos pays d'Europe, nous avons tendance, reconnaissons-le, à vivre un christianisme du dimanche. Et c'est ce qui fait que, dans les églises évangéliques, on bat tous les records d'affluence le dimanche matin. Qu'est-ce que je vais prendre à la sortie? Quel est le premier obstacle?
Eh bien, le premier obstacle, il est clair dans notre texte. Il s'appelle le Jourdain. Le Jourdain.
Sittim, nous l'avons dit, était près de l'embouchure du Jourdain. Et il se trouve que c'est là l'humour de Dieu. J'allais dire humour noir aux yeux des hommes. Mais l'humour de Dieu voulait qu'à cet endroit, précisément, le fleuve soit très large.
En général, de toute manière, aux embouchures, c'est plus large qu'à la source.
Le fleuve était très large, surtout à cette époque de l'année. Juste au moment où cette grande famille d'Israël allait pénétrer, ceci nous est dit au chapitre 3, verset 15. Il est dit que le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'était à cette époque. Ceci est répété pour que nous soyons sûrs de ce que nous lisons dans 1 Chronique au chapitre 12 et au verset 15. Nous allons aussi lire ce verset, 1 Chronique 12, verset 15. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives. Voyez la précision. Il débordait sur toutes ses rives. Et on sait qu'à cet endroit et à cette époque, tenez-vous bien, accrochez-vous, n'est-ce pas, mettez vos ceintures, le Jourdain pouvait être large de 3 à 4 kilomètres. Voilà ce qui était devant eux. J'ai juré de vous donner le pays. Allez, possédez le pays. Mais Seigneur, 3 à 4 kilomètres. Et puis, si encore ils avaient été une dizaine, mais ils étaient quelque 2 à 3 millions. Et puis, il y avait tout le déménagement qui va avec. Tous les habitats. Et puis la basse-cour et tout le reste. C'était énorme. 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de guerre, simplement déjà. C'était l'obstacle le plus proche. Et c'était l'obstacle humainement insurmontable. Quel est le plus grand, le premier des obstacles qui se dressent dans cette conquête du salut vécu dans sa plénitude? Eh bien, c'est le Jourdain. Parce que le Jourdain, dans les Écritures, est toujours une annonce de la croix. Le Jourdain annonce la croix. Déjà dans l'Ancienne Alliance. Si nous faisions une étude systématique du livre de Josué, nous passerions beaucoup de temps sur les chapitres 3, 4 et 5. Qui sont en geste un des plus grands messages doctrinaux de toutes les Écritures, celui de Romains chapitre 6. Vous savez, l'Ancien Testament est fertile en images sur des faits, sur des réalités vécues qui rendent accessibles à nos petits esprits les grandes réalités doctrinales de la Nouvelle Alliance. Et si nous comprenons si mal, souvent, le grand message, c'est parce que nous ne pénétrons pas assez l'Ancien Testament. Notamment ces textes de Josué 3, 4 et 5. Le Jourdain, type de la croix du calvaire. De la mort au passé. Pour une résurrection et une vie nouvelle de plénitude. Une coupure avec le passé. Le renoncement à des habitudes, des fréquentations, à une certaine mentalité. Le Jourdain dans son aspect objectif, là où Jésus-Christ est mort pour nous, et le Jourdain dans son aspect subjectif, là où nous sommes morts et où nous devons vivre quotidiennement notre mort avec Jésus-Christ. Je pense à ce célèbre prédicateur qui visitait, juste à l'extérieur des murailles de Jérusalem, ce lieu tenu de temps à autre par des missions évangéliques, où se trouve le jardin du tombeau, à proximité d'un lieu que l'on identifie généralement au crâne, lieu de la crucifixion, et qui a toutes les chances d'être le lieu, mais ne nous battons pas sur cette question. Et ce prédicateur était accompagné d'un guide arabe. Et il a exprimé le désir de monter là-haut, là où on ne va pas, sur le sommet, là où peut-être Jésus-Christ a été crucifié. Et le guide essaya de l'en décourager. Mais le prédicateur était obstiné dans son désir de monter là-haut, si bien que finalement le guide le conduisit là-haut. Et une fois sur la crête, ce serviteur de Dieu enleva son chapeau, courba la tête, profondément ému. Et le guide l'observait, ce guide arabe. Et finalement le guide de lui dire, « Monsieur, êtes-vous donc déjà venu ici auparavant ?» Et le prédicateur de répondre, « Oui, monsieur, je suis venu ici il y a 2000 ans. J'ai été crucifié avec Christ. » Et le temps utilisé dans le texte original laisse entendre, c'est un parfait « j'ai été et je suis encore continuellement crucifié avec Christ ». Nous le savons. C'est un fait. C'est un fait juridique. À cause d'un fait qui s'est passé un jour sur la colline de Golgotha. Je sais que je suis mort, que j'ai été enseveli et que je suis ressuscité à une vie nouvelle dans la mort, l'ensevelissement et la sortie du tombeau de mon Sauveur bien-aimé. Mais il faut vivre cela. Il faut le pratiquer. Il faut s'emparer par la foi de ce message et le transformer en réalité dans ma vie quotidienne. Tozer, cet homme de Dieu, remarquable aussi à la grande vision missionnaire qui est partie auprès du Seigneur dans les années 60, disait ceci, « Le moi est l'une des plantes les plus résistantes qui croissent dans le jardin de la vie. En fait, aucun moyen humain ne peut la détruire. Au moment même où nous sommes certains qu'elle est morte, elle repousse quelque part ailleurs, plus robuste que jamais, prête à troubler notre paix et à empoisonner le fruit de notre vie. » Le chrétien victorieux, ajoutait-il, n'est pas celui qui se vante ou qui se méprise. Il ne s'intéresse plus à lui-même, mais à Christ. Il n'est plus préoccupé de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Il croit qu'il a été crucifié avec Christ et il ne désire ni exalter ni déprécier l'homme qu'il est devenu. Vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes en Christ, que c'est là le premier et le plus grand des obstacles. La personne et l'ennemi avec lequel j'ai le plus à faire dans ma vie, c'est moi. C'est moi. Et il n'y a qu'une sorte de haine qui produise un fruit de paix. C'est la haine de ce moi naturel. Non pas que nous devions nous mépriser. Il entend notre ami Tozer. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous devons bénir Dieu de nous avoir créés et recréés. Mais nous savons, n'est-ce pas, cette plante, ce chardon, ce liseron qui continuellement en nous repousse, ressort la haine du moi, cette nécessité de jour en jour de vivre le Jourdain. Et c'est vrai que nous pourrions dire, même à l'issue de ces réunions, « Mais Seigneur, je n'arriverai jamais à me défaire de mon passé. » Je n'arriverai jamais à renoncer à mes habitudes, je n'arriverai jamais à renoncer à certaines idoles, à ma mentalité, à mon caractère. Je n'arriverai jamais à dire non à certaines choses. Seigneur, j'ai tant de peine à renoncer à moi-même pour me consacrer à toi. Seigneur, ce fleuve est trop profond. Je ne peux le traverser. Et il faut savoir le dire. Il faut savoir faire cette prière. Parce que Dieu fait une promesse à ceux qui avouent leur incapacité.
Il a su faire une promesse à Josué au verset 5 lorsqu'il lui a dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Il était mort, Moïse. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'ai fendu la mer Rouge pour Moïse. Je suis parfaitement capable de te frayer un chemin à travers le Jourdain. Ce que j'ai fait pour ceux qui t'ont précédé, pourquoi ne le ferais-je pas pour toi? Serais-je un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et de Moïse? Dieu n'en a-t-il pas transformé à vue humaine des plus indignes que nous? Courage. Courage. Ne vous laissez pas décourager par la puissance des ténèbres qui essayent d'exploiter ce que nous avons partagé ces derniers soirs. Courage. Le Dieu qui a été avec Moïse pour traverser la mer Rouge, qui a été ensuite avec Josué pour traverser le Jourdain, est avec nous pour que nous puissions vivre et traverser glorieusement cette dimension de la croix dans notre vie quotidienne. Il l'a promis. Il y avait bien entendu au-delà du Jourdain un second obstacle. Tous ces obstacles se tiennent. Nous les dissocions pour la pédagogie de notre enseignement. Cet autre obstacle, ce sont les locataires dans la maison, c'est-à-dire les Cananéens. Nous l'avons lu dans Nombre 14, mais c'est essentiellement dans Nombre 13 qu'il en est question, versets 28-29. Le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Versets 31-33 encore. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ah, non. Vous lirez la même chose dans Deutéronome 1, 28, dans Josué 10, verset 2, 11, verset 4. Ces armées innombrables, une population très nombreuse, des vaillants soldats. Ah, et je suis sûr que durant ces soirées, pour certains d'entre nous, des géants se sont dressés dans leurs pensées au fur et à mesure qu'ils entendaient le message. Avec leur rictus grimaçant. Pour essayer de décourager, de saper, d'empêcher de prendre ces saintes résolutions. Le géant de la moquerie, du mépris, du découragement, de l'opposition, témoignage, de l'incompréhension, de l'entourage, de l'intimidation. Et c'est vrai, nous l'avons dit, on se connaît si bien dans ces villages. Hein. Et quand on est à Jésus-Christ, il arrive qu'on soit comme marqué de la lèpre. Pour ceux qui nous entourent, ça peut être si difficile. Et à cause de cela, peu à peu, notre témoignage audible s'éteint. On entre dans les subtilités des raisonnements tels que celui-ci. L'essentiel, c'est que ma vie parle. Et l'on se tait, comme s'il était possible d'être sauvé par un message que l'on n'entende pas avec ses oreilles. Il y a le géant de l'épreuve. Il y a les problèmes de santé. Ces accidents qui arrivent que l'on ne comprend pas au détour de la route. Ces moments difficiles qui nous amènent à dire pourquoi. Pourquoi, Seigneur ? Ce sont des géants. Et qui peuvent nous bloquer dans notre avancée. Pourquoi ? Quelqu'un dit « Nous sommes au pays des pourquoi, mais nous allons au pays des parce que ». Il y a 8 lettres de chaque côté. 8 lettres à pourquoi, 8 lettres à parce que. Et je pense à cette veuve qui, quand son mari était mort, avait mis pourquoi sur la pierre tombale. Et puis un jour, elle a rencontré Christ. Et aussitôt, dans les semaines qui ont suivi, elle est allée voir celui qui avait gravé dans la pierre tombale. Elle dit, écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, effacez-moi ça. Mettez parce que à la place. Nous sommes au pays des pourquoi, nous allons au pays des parce que. Et Dieu, là aussi, connaissait Josué. Et tous les pourquoi. Et toutes ces angoisses qui pouvaient l'étreindre, même après avoir vécu tout ce qu'il avait vécu aux côtés de Moïse. Et c'est pourquoi il a fait une seconde promesse à son serviteur. « Nul ne tiendra devant toi. » Verset 5. « Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. » Je pense à ce qui avait déjà été annoncé dans le livre du Deutéronome au chapitre 9. Deutéronome, chapitre 9, versets 1 à 3. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, dont tu as entendu dire, qui pourrait tenir contre les enfants d'Anak ? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Pas beau ça ? L'Éternel marche devant toi. Il marche devant nous. Il nous a prouvé, pour nous qui sommes à Jésus-Christ depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, il nous a prouvé qu'il marchait devant nous. Parce que nous avons connu des moments difficiles où le Dieu de la persévérance et de l'espérance s'est montré le Dieu fidèle. Un avec Dieu, c'est la majorité. Un avec Dieu, c'est la majorité. Vous aurez des tribulations dans le monde, disait Jésus. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons affaire, nous l'avons dit cette semaine, nous avons affaire à un ennemi qui est déjà vaincu, même s'il joue ses derniers coups sur le grand échiquier du monde. Il est déjà échec et mat. Et nous attendons celui qui le mettra hors d'état de nuire. En vue de ce temps auquel je crois personnellement, pour la terre du millénium. Troisième obstacle. Nous avons vu les locataires dans la maison. Maintenant, il y a le pays, tout simplement. La maison elle-même. Et ce pays, c'est l'inconnu. Les Cananéens sont chez eux à leur avantage. Parce que celui qui est chez lui a toujours l'avantage. Rien n'est plus terrible pour Israël que de devoir envisager une guérilla dans les montagnes du pays promis. C'est pour cela que Moïse avait d'ailleurs envoyé des espions. C'est pour cela que Josué va faire de même au chapitre 2. Et c'est vrai que nous avons une question qui nous aiguillonne, notamment à la suite de ces soirées qui ont fait remonter dans nos cœurs toutes sortes de pensées, qui nous ont placés face à des défis. Mais Seigneur, dans quel chemin est-ce que je m'engage ? Si je fais ces choix que tu me demandes, si je reprends la juste mesure des vraies priorités, pour que tu aies la place qui te revienne, Seigneur, mais de quoi demain sera-t-il fait ? Est-ce que je ne risque pas gros ? Seigneur, tu sais que devant moi, il y a l'inconnu. Alors, parce que pour Josué, il y avait cette question comme pour nous, Dieu lui a fait une troisième promesse. Et il lui a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Chapitre 1er, verset 3. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, Josué, n'essaye pas de voir le pays jusqu'à son fin fond. Tu risquerais de te décourager. Simplement, fais un pas après l'autre. Un pas après l'autre. L'ennemi est celui qui essaye de nous décourager en nous montrant tous les problèmes, toute l'étendue du territoire à conquérir. Le Seigneur a une autre méthode. Je pense à ce que disait Georges Müller, pas celui d'ici, mais l'autre. Dans Proverbe 4:12, il traduisait le texte de cette manière. Proverbe 4:12, c'est un texte qui a été sur mon cœur combien de fois dans des situations difficiles. « Tandis que tu avanceras pas à pas, un chemin s'ouvrira devant toi. » Tandis que tu avanceras pas à pas, un chemin s'ouvrira devant toi. Seigneur, l'essentiel, c'est que j'ai l'huile dans la lampe pour le pas que j'ai à faire maintenant. Demain, tu me donneras l'huile pour le pas de demain. Je dois vivre avec lui l'instant présent dans sa plénitude. Dieu me donne le nécessaire pour faire le pas suivant, pas plus. Je pense à cette femme de Dieu qui est auprès du Seigneur depuis quelques années, Corrie ten Boom, qui, quand elle était enfant, disait à son papa, « Papa, quand je vois ce que les chrétiens peuvent souffrir dans certains pays du monde, je crois que jamais je ne tiendrai le coup si j'avais à passer par là. J'ai peur !» Et son papa, qui disait à Corrie, « Corrie, quand nous partons en voyage et que nous devons prendre le train, à quel moment est-ce que nous achetons le billet ?» Et c'était la coutume, comme autrefois dans notre pays, d'acheter le billet juste avant le départ. Et Corrie a dit à son papa, « Papa, on achète le billet juste avant de monter. T'es dans le train. » Et papa a dit, « Alors tu as compris. Quand tu devras monter dans le train de la souffrance, de la persécution, de l'hostilité à ta foi et de l'épreuve quelle qu'elle soit, souviens-toi que c'est à ce moment-là que tu recevras le billet pour faire le parcours. Pourquoi veux-tu que Dieu te donne le billet maintenant? Tu ne saurais pas quoi en faire. » Je ne veux pas me dire, « Maurice, comment est-ce que tu feras si jamais ça devient beaucoup plus difficile ?» Je ne peux pas répondre à cette question, je n'y suis pas. Pourquoi m'intéresser à un problème qui est pour demain? J'ai déjà tant de problèmes à régler aujourd'hui. Mais je sais que le Seigneur me donne le billet dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Quand j'aurai besoin d'un autre billet, avec un supplément première classe, Dieu me le donnera. Même pour le TGV ou le Trans-Europe Express, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu est fidèle et nous donne ce que nous avons besoin. Enfin, quatrième obstacle. Cela suit ce que nous venons de dire, à savoir les dimensions du pays. Au verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens. Et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Du désert d'Arabie au sud, jusqu'au Liban au nord, de la Méditerranée à l'ouest, jusqu'à l'Euphrate à l'est. Vous imaginez ce que cela voulait dire pour Josué? Josué avait quand même, comme on dit en certains lieux, 90 ans, 90 ans. Il n'était plus tout jeune. Il avait peut-être un peu d'arthrose, et puis un tas d'autres problèmes.
Et je pense qu'il a dû dire au Seigneur, mes seigneurs, « Comment est-ce que tu veux que j'arrive au bout du combat alors que je suis déjà au soir de la vie ?» Et cela peut aussi être notre question. Nous pouvons dire, mes seigneurs, tes exigences sont grandes. La stature du croyant adulte est bien loin de ce que je suis. Et puis, Seigneur, je me suis donné à Jésus-Christ si tard. Il y a tant à conquérir. J'aimerais aller loin, mais ça me semble une montagne. Alors, Dieu qui connaissait le cœur de Josué, qui était un homme de la même nature que nous, Dieu lui a donné une quatrième promesse. Et il lui a dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. C'est toi. C'est toi. Avant ta mort, la victoire sera acquise. Et c'est vrai que la phase de conquête a duré 7 ans. Il y a eu ensuite l'installation, ces aléas, ces ratés, qui ont amené la triste période très longue de plusieurs siècles du temps des juges. Mais en ce qui concerne la conquête, Josué a vu de grandes choses de son vivant. Dieu lui a encore accordé quelques 25 ans à peu près, 20 à 25 ans à vivre, pour qu'il puisse fouler de ses pieds cette terre et remporter de grandes victoires. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et Dieu veut nous encourager à vraiment, à la suite de cette semaine, nous engager résolument sur un chemin de nouvelles actions. Réveiller notre amour refroidi. Nous ramener au premier amour. Au zèle des temps qui ont suivi notre conversion à lui. Il veut le faire. Mais, parce que vous savez, quand Dieu fait des promesses dans les Écritures, il les assortit toujours de conditions. Toujours. Même si tout est grâce, il y a des conditions. Dieu va nous porter pour l'accomplissement de ces conditions afin que les promesses puissent s'accomplir. Mais le christianisme n'est pas pour les gens passifs. Il est pour ceux qui s'engagent par la force toute-puissante de Dieu. Quelles sont les conditions de victoire? La première de ces conditions, c'est la foi. C'est la foi. Il nous est dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi. Et ce terme laisse entendre sous-jacent, de manière sous-jacente, et foi. Et foi, ça c'est la part de l'homme. Et foi, fortifie-toi seulement et bon courage. Au verset 7, fortifie-toi seulement et bon courage. Au verset 9, fortifie-toi et prends courage. Au verset 18, fortifie-toi seulement et prends courage. 4 fois. 4 fois. Pour chacune de nos soirées, hein. Mercredi soir, fortifie-toi et prends courage. Jeudi soir, fortifie-toi et prends courage. Vendredi soir, fortifie-toi et prends courage. Samedi soir, fortifie-toi et prends courage. Et c'est là que le texte que nous avons lu dans le livre des Nombres devient particulièrement intéressant. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, verset 19, qu'ils ne purent entrer en Canaan, ces Israélites, à cause de leur incrédulité. 40 ans. 40 ans de drames, de situations difficiles, de mort sur pied pour toute une génération. Il fallait accepter de se mouiller les pieds, ce qui est dit
au chapitre 3 et au verset 16. Lorsqu'ils furent entrés dans le Jourdain, lorsqu'ils eurent mouillé leurs pieds, alors le Jourdain s'ouvrit. L'arche de l'Alliance les précédait, qui est une annonce de la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous précède. Il est le bon berger. Et vous savez qu'en terre d'Israël, comme dans les Écritures, le berger n'est pas derrière comme dans nos pays, il est devant. Il est devant. Il nous précède. Il y avait 1 kilomètre entre l'arche de l'Alliance et le peuple d'Israël. 1 kilomètre. Et cette arche était là pour emmener le peuple par un chemin qu'il n'avait jamais connu. Inconnu pour lui. Il fallait se mouiller les pieds. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie ta foi dans la générosité inouïe de Jésus-Christ. Dans ce coffre-fort extraordinaire de Dieu. Dans toutes les richesses de sagesse, de justice, de bonté, de patience. Tout ce que nous avons besoin, nous le trouvons en Jésus-Christ. Encore faut-il que nous acceptions de nous mouiller. Josué avait été envoyé comme espion en tant que chef de la tribu la plus importante, cette tribu d'Éphraïm qui allait devenir la plus importante du royaume du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au retour, son attitude et celle de Caleb étaient totalement opposées à celle des autres espions. Les autres espions soulignaient les obstacles, nous l'avons vu ensemble. Ils voyaient tout de manière négative. Vous savez, rien n'est plus terrible que le scepticisme de l'incrédulité. Et quand dans une vie d'église locale, ce scepticisme commence à gagner, se produit ce qu'on appelle la complicité de l'entourage. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est sceptique, faites attention. C'est comme le rhume, ça s'attrape. Oh, on le voit dans 1 Samuel 17. Ces soldats vaillants en face des Philistins, qui étaient capables de faire des exploits, dont la plupart avaient été bergers, étaient capables de manier la fronde. Mais leur ménage était complètement paralysé par le scepticisme de l'incrédulité. Il a fallu que quelqu'un vienne de l'extérieur, qui n'ait pas été contaminé par ce virus, pour que la victoire puisse se manifester. Je pense au lancement du bateau à vapeur par l'Américain Robert Fulton, quand il a présenté son bateau à vapeur pour la première fois en public. Il y avait dans la foule massée sur le rivage de ces pessimistes dont l'un répétait inlassablement « Il pourra pas le mettre en marche, il pourra pas le mettre en marche, il pourra pas le mettre en marche. » Et puis voilà que subitement, on voit s'élever un panache de fumée et le bateau, ce monstre crachant, n'est-ce pas, qui se met à avancer. Oh, l'homme était sidéré. Il regarde pendant un instant les yeux qui sortent de la tête. Et puis il se met à psalmodier, il pourra pas l'arrêter, il pourra pas l'arrêter. On a envoyé un jour un marchand de souliers dans une région reculée du pays. Et lorsqu'il arriva dans cette contrée, il fut consterné parce que tout le monde se promenait nu-pieds. Alors il télégraphie le message suivant à la compagnie, aucune perspective de vente, les gens ne portent pas de souliers ici. Alors c'était pas l'alsacien bien entendu. Plus tard, un autre marchand se rend dans le même territoire et lui aussi envoie immédiatement un message à sa compagnie. Et son télégramme se lisait de cette manière, ça promet énormément. Les gens ne portent pas de souliers ici, qu'est-ce que je vais en vendre? Vous voyez, il y a diverses manières de voir les problèmes. Alors vous me direz, mais est-ce que la vie chrétienne ce serait de l'optimiste? Alors à ce moment-là, il y aurait de l'injustice. Parce qu'il y a des gens qui sont pessimistes de nature, et d'autres qui sont optimistes de nature. L'optimisme n'a rien à voir avec la parole de Dieu et avec la vie chrétienne. Dieu n'est pas injuste à ce point-là. Quelqu'un a dit, qui n'était pas du tout évangélique, le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, mais il y a le réaliste qui voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel et le prochain tunnel. Nous ne devons être ni pessimistes, ni optimistes. Nous devons être enthousiastes. Parce que c'est un mot grec. Et ce mot grec signifie très simplement avoir Dieu en soi. Si je décompose ce terme grec, cela veut dire exactement Dieu en soi. Qui a Dieu en soi ? Et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Cela veut dire que la foi, à l'inverse de l'optimisme, n'est pas aveugle sur les réalités. L'optimiste a tendance à sous-évaluer les réalités. Et c'est ce qui fait qu'il est capable de se dégonfler comme un ballon de baudruche lorsque les vrais problèmes sont là. Celui qui vit dans la foi et qui la développe n'est jamais aveugle sur la réalité. Josué et Caleb n'étaient pas aveugles sur la réalité de la puissance cananéenne. Ils n'étaient pas aveugles sur les géants, sur les cités fortifiées, sur l'inconnu devant eux. Ils étaient lucides. Ils ne mésestimaient pas les obstacles, mais leurs yeux étaient sur l'Éternel et sur ses promesses. C'est ça la foi. Je pense à John Wesley qui faisait route un jour avec un homme en difficulté spirituelle. Et cet homme lui faisait part de ses doutes quant à la bonté de Dieu. « Je ne sais que faire avec les perplexités et les inquiétudes qui m'assaillent », disait cet homme. Et voilà qu'à ce moment, ça devait se passer en Alsace, en tout cas dans l'ancienne Alsace, parce qu'on en voit moins maintenant. Voilà qu'à cet instant, Wesley aperçoit une vache. Une vache qui lève la tête au-dessus d'un mur de pierre. Et Wesley pose une question. Il dit à son compagnon, « Savez-vous pourquoi cette vache regarde au-dessus du mur ?» Et l'homme était perplexe et dit non. Et Wesley dit simplement, « Ben, la vache regarde par-dessus le mur parce qu'elle ne peut pas voir à travers. » Et il a ajouté, « Mais c'est cela ce que vous devez faire ?» Avec votre mur de difficulté. Il faut regarder au-dessus. Vous le voyez, il est là. Mais regardez au-dessus. Regardez là-haut. Regardez dans la bonne direction. Oh, nous n'allons pas le faire, mais j'aimerais tant vous commenter certains textes, notamment dans l'histoire d'Abraham. Comment Abraham a été un homme de foi ? Alors que sa femme et lui étaient une véritable ruine sur un plan strictement corporel. D'ailleurs, le texte utilise dans l'Ancien Testament ce terme pour parler du corps de Sarah. Sarah dit à un moment donné, mais je suis une ruine. Et il y a un beau texte dans Romains au chapitre 4, dans les versets 17 à 22, je n'entre pas dans les détails, mais on voit comment le regard d'Abraham a considéré considérer le même terme que nous avons vu hier soir, regarder du haut en bas. Il a regardé sa femme du haut en bas. Il lui a peut-être dit, chérie, arrête-toi un moment, j'ai envie de te regarder. Alors, il a regardé du haut en bas. Elle se demandait ce qu'il allait dire après. Pensez à son âge. Et puis, il s'est regardé aussi dans la glace, hein. Il a dit, « Oh Seigneur, c'est pas brillant. » Et il nous a dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Après ça, il a regardé. Il n'a pas imaginé qu'il avait en face de lui une belle jeune fille et qu'il était dans la force des 30 ans, n'est-ce pas ? Pas du tout. Non, il a regardé. Il était lucide. Mais il s'est cramponné, dit le texte. aux promesses de Dieu concernant sa descendance, et cela fut mis sur son compte à justice. Il fut innocenté, acquitté, justifié, parce qu'il mettait sa confiance dans le Seigneur, au sein de cette situation qui pouvait apparaître insoluble.
Et ceci pendant 25 années.
Eh oui, merci frère. 25 ans. C'est Tozer que je citais tout à l'heure qui dit ceci: une petite dose de refus de croire est aussi nécessaire que la foi pour le bien-être de nos âmes. Nous ferions bien de cultiver un brin de bon scepticisme. Il nous éviterait souvent de nous embourber dans des zones marécageuses. Ce n'est pas tragique de douter de certaines choses. Cela pourrait l'être de croire toutes choses. Les chrétiens sont appelés à être des hommes de foi, mais non des hommes crédules. L'équilibre de la foi. La foi qui considère les situations, qui pèse les situations, qui voit le problème sous toutes ses coutures, mais qui ne s'appesantit pas sur le problème, qui regarde au-delà. La foi, voyez-vous, est liée à une juste vision de Dieu. Alors nous en avons parlé durant 2 soirs de notre vision de Dieu. Nous avons vu hier soir comment notre foi s'épanouissait par notre vision de Dieu en Jésus-Christ au moyen de la parole. Spurgeon disait: une grande foi est capable de voir le soleil à minuit, de moissonner en plein hiver et de découvrir les rivières sur les sommets. Corrie ten Boom ajoutait: la foi est comme un radar dans le brouillard, elle sait discerner de loin la réalité des choses là où normalement l'œil humain n'y voit rien. Je pense à cette femme qui circulait dans les rues de Londres avec sa petite fille. Et il régnait un de ces épais brouillards qui a fait la célébrité de Londres. On n'y voyait pas à 2 pas devant soi. Et cette femme était angoissée parce qu'elle était perdue dans cette grande cité avec son enfant. Lorsqu'elle voit une ombre qui passe à proximité, qu'elle accroche au passage. C'était un homme. Et elle dit à cet homme: « Ma fille et moi, nous sommes perdus. Est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà où nous habitons. » Et cet homme d'emmener cette femme et sa fille exactement devant la porte de leur domicile. Cette femme était sidérée. Et avant de se serrer la main et de remercier cet homme, la femme de lui dire: « Mais écoutez, comment est-ce que vous avez fait alors que il y a un tel brouillard ?»« Madame, c'est que je suis aveugle. » Elle, cet homme, avait appris à circuler dans l'obscurité. Et nous, disciples de Jésus-Christ, plus la nuit devient noire, préparant l'aurore dans le retour de Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, plus nous devons apprendre à marcher dans l'obscurité. Et la foi, c'est ça. Je regarde là où se trouve la lumière. Là où se trouve la lumière. Oswald Chambers disait: la foi est une entière confiance en Dieu, une totale dépendance de lui, une parfaite sécurité. Elle est le 6e sens qui nous rend capable de saisir ce qui est invisible, nous le rend réel et nous permet de pénétrer dans le domaine spirituel où l'on traite directement avec Dieu. Il me reste à dire ceci et puis nous conclurons. La foi, oui, la foi. Mais la foi n'a aucune vertu en elle-même. La foi n'est rien. Rien du tout. Elle peut même devenir notre pire ennemi dans la vie chrétienne. Comme les meilleures choses spirituelles. Celles qui nous apparaissent les plus légitimes. La prière, la libéralité, l'étude de la Bible, la vie d'église même. Parce que aujourd'hui on nous enseigne, au travers de certains livres si abondants dans les librairies et sur les comptoirs d'église, que la foi est une grande chose et que nous devons mettre notre foi dans la foi. Mettre sa foi dans la foi, c'est mettre sa foi dans l'homme. Et c'est donc devenir idolâtre. Ce qui est important, ce n'est pas ma foi, mais c'est l'objet de ma foi. Ce qui est important, ce n'est pas votre foi dans votre foi, mais votre foi dans la chaise qui vous porte. J'espère qu'elles vont tenir jusqu'à la fin de cette étude. Vous comprenez? C'est Jésus-Christ qui est fondamental. Mieux vaut une petite foi en un grand Dieu qu'une grande foi en un petit Dieu. Et la parole de Dieu le dit constamment. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et nous pourrions dire la même chose de toutes les autres formes de piété mal centrée. Quand les disciples disaient à Jésus, « Mais Seigneur, augmente-nous la foi. » Que leur répondait Jésus? Il ne leur disait pas, « Non, je vais vous donner une foi absolument extraordinaire. » Non, il leur disait, « Non. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, toute petite, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Toute petite, pas augmentée. L'essentiel, c'est que votre foi soit bien fondée. Fondée sur Jésus-Christ lui-même. L'incrédulité est une méconnaissance de Dieu, une rébellion contre lui. Servir Dieu, c'est donc aussi accepter de courir les risques inhérents à la foi. À la foi qui dérange l'incrédulité. Vous avez vu, hein? Josué et Caleb ont manqué de se faire lapider. La gloire de Dieu est apparue. Arrêtez le geste de ceux qui allaient lapider. Notre foi, bien centrée sur Jésus-Christ, amènera l'hostilité à cause du scepticisme de l'incrédulité chez les autres. La foi dérange, elle gêne. Et nous sommes parfois et souvent même appelés à marcher douloureusement à contre-courant. Dieu nous accorde une foi qui soit pétri d'amour. Non pas cette foi dure, agressive, véritable couperet qui juge les autres, mais cette foi qui a été l'apanage de Josué, qui a même accepté de faire route pendant un certain temps aux côtés de l'incrédulité, en attendant l'heure de Dieu. Il y a une heure. Oh Dieu, veuille que notre foi soit équilibrée. Simplement, je termine, il y a deux autres remarques qui sont les conditions d'accomplissement des promesses de Dieu dans Josué 1, c'est le verset 8 que nous connaissons tous, bien entendu, par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La méditation persévérante de toute la loi. La foi vient de ce qu'on entend, nous l'avons dit hier soir, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous l'avons expliqué hier soir. Médite-le, littéralement dit le texte hébreu, murmure-le. Parce qu'on ne conçoit pas chez le juif de méditer simplement cérébralement. On murmure. Si vous allez dans une synagogue, ou si vous allez à Jérusalem, à l'ex-mur des Lamentations, vous entendrez un murmure, le bourdonnement d'une ruche. On murmure les Écritures. Parce que c'est un remède à l'envol de nos pensées, au sommeil facile. Et puis c'est une écoute. C'est une écoute à laquelle est attentive même la puissance des ténèbres. C'est une prise de position. Murmure la parole jour et nuit. Dans le psaume 1er au verset 2, c'est exactement le même terme qui est utilisé. Heureux ceux qui murmurent la parole de Dieu jour et nuit. En lisant distinctement, de manière audible, pour pouvoir mieux retenir. Et puis il est dit qu'il faut lire tout ce qui y est écrit. Tout. Tout de la Torah. Le mot Torah signifie le chemin. L'ensemble de la parole de Dieu est un chemin sur lequel je dois constamment marcher, mais dans tout ce chemin. Et nous l'avons dit, Si nous voulons voir de grandes choses dans nos vies, dans notre service, il importe que nous serions non seulement des extraits de la parole de Dieu, ces passages qui font de nous des diabétiques parce que nous aimons trop les sucreries, j'aime à le dire, non, mais que nous ayons une saine diététique spirituelle. Le Lévitique en plat de résistance de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Savez-vous que c'est comme ça que les jeunes juifs apprenaient à lire à 5 et 6 ans dans les écoles rabbiniques jadis? Le premier livre de l'Ancien Testament qu'on leur faisait lire, c'était le Lévitique. Vous vous rendez compte? Mes amis, c'est pas possible, hein? Mais c'est comme ça. Il faut le lire, ce livre, à la lumière de l'ensemble des Écritures. Ce sera mon thème l'année prochaine à Vendenheim, « Ma Bible et moi ». Et puis enfin, pour terminer, c'est toujours au chapitre 1er, verset 8, c'est là que l'arête fait mal au travers de la gorge pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. L'obéissance. L'obéissance par le Saint-Esprit à ce que Dieu nous montre dans la parole de Dieu. Vous avez au verset 7 la clé du courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. La clé du courage est dans l'obéissance. Et c'est le grand thème du Deutéronome. 90 fois dans le Deutéronome, vous avez les termes obéir et désobéir. 90 fois. Parce que c'était un peuple, une nouvelle génération, comme des enfants. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. De la même manière que quand on éduque des enfants, une des premières choses qu'on doit leur apprendre tout petit, c'est l'obéissance. De la même manière, le Dieu Père des enfants d'Israël leur a enseigné tout d'abord, quand c'était encore un tout petit peuple, l'importance de l'obéissance et les désagréments parfois catastrophiques de la désobéissance. Quatre grandes promesses pour aller de l'avant, mais vous avez remarqué, trois conditions. Fortifie-toi! Marche par la foi en regardant là-haut. Passe du temps dans la parole de Dieu tout entière. Murmure-la de tout ton cœur, jour et nuit. Et puis, aie soin de vivre ce que tu lis par la force que Dieu donne lorsqu'il habite en nous en plénitude par le Saint-Esprit. Alors mes bien-aimés, Dieu me le dit, je vous le transmets. Bon courage. Bon courage pour la suite de votre marche. Dieu me le dit à moi, bon courage Maurice, pour la suite aussi. Nous voulons prier. Seigneur, comment ne pas te bénir? Parce que ta parole n'est pas un rabat-joie. Tu es merveilleux. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu nous demandes de relever notre tête car notre délivrance est proche. Merci pour cet équilibre que tu veux nous donner, loin du pessimisme, loin de l'optimisme, mais dans un saint enthousiasme, lié à ton règne dans notre vie à chacun. Merci pour tes promesses, si belles, si riches, et qui se sont réalisées si souvent dans l'histoire. Les arts de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, et les arts de ce que nous connaîtrons dans le ciel. Seigneur, aide-nous à faire le point dans cette première journée de la semaine, après cette série d'études, Seigneur, accorde-nous la grâce de nous fortifier en regardant à toi, de murmurer ta parole plutôt que de vivre d'autres murmures destructeurs, et de pratiquer ce que nous avons partagé. Merci pour ta patience, ton soutien. Merci de pouvoir continuellement revenir à la croix au Jourdain. Merci pour le sang de Jésus, pour son accueil permanent. Béni sois-tu pour ton œuvre dans nos vies. Va avec la force que tu as. Je serai moi-même avec toi. Amen, Seigneur.